Merci beaucoup. Moi, mon présentation concerne un travail qui est plutôt commençant que bien achevé, comme je viens de vous parler. Bon, je vais lire, parce que je préfère ça, c'est un peu désagréable. Et je vais même lire les titres, parce que je pense qu'on ne lit jamais les titres quand on fait un papier, et c'est dommage. Mon premier paragraphe s'appelle « Trois étudiantes ». Joséphine, 21 ans, est étudiante comme les autres amateurs de série que je vais évoquer. Elle est élégante, vêtue à la dernière mode et s'exprime de façon choisie. Sa famille réside à Strasbourg. Elle aime surtout la musique, regarde très peu la télévision. Cependant, une série a marqué sa vie familiale. Elle regarde en effet Les Feux de l'amour depuis qu'elle a une dizaine d'années. Presque toujours, elle la regarde en famille. Sa mère en particulier est une passionnée et lui en a appris tous les ressorts. Parfois, Joséphine regarde dans son studio lyonnais un épisode du feuilleton, mais sans jamais retrouver son goût pour la série. Elle est d'ailleurs frappée par sa lenteur et se découvre avec stupeur, ennuyée par la narration. À Strasbourg, ils ont l'habitude de déjeuner devant le poste de télévision et aussi de partager les larmes, réaction qu'à Lyon, elle a du mal à comprendre. Comme elle le dit, le spectacle est également dans le salon familial. Sa mère donne le ton qui multiplie les interpellations, les interjections, les plaisanteries ou les manifestations d'émotion. Joséphine se souvient de certains épisodes, comme celui du cancer du sein, avec l'un des personnages, qui avait beaucoup fait pleurer donc sa famille. Son attachement à certains personnages, comme celui de Victor, est important. Elle reconnaît qu'il escorte celui de sa mère. Elle a l'impression de mieux connaître certains personnages que certains des membres de sa famille. Elle n'aime pas leur départ, pourtant inévitable, dans une série qui existe depuis 1973. Elle se renseigne parfois sur Internet à propos d'épisodes ratés ou du devenir de certains comédiens. Agathe, une nature que Joséphine, 23 ans également, a un petit boulot pour pouvoir poursuivre ses études. Elle vit dans un petit appartement avec son copain et partage avec lui une passion pour la série Urgence. Elle aime beaucoup la télévision, fait pas mal de sport, regrette le prix élevé des places de cinéma. Quand les épisodes d'Urgence sont diffusés le dimanche soir par France 2, tous les deux coupent le téléphone, omettent d'ouvrir la porte si l'on frappe, se préparent deux plateaux repas avant de se blottir au fond du lit et devant le petit écran. Ils utilisent éventuellement les interruptions publicitaires pour téléphoner en cas de nécessité. Lui plaît presque autant le rituel de préparation du visionnement de la série que ce visionnement lui-même. Au début, Agathe s'amusait de la série Les Aventures des personnages. Puis, la curiosité, l'intérêt et même une certaine passion ont gagné. La dernière saison du Dr Carter représente pour elle le summum de la série et de son propre attachement pour elle. Agathe aime parler de la série avec d'autres amateurs, partager commentaires et suppositions. Elle va aussi sur Internet et y recherche, non pas de nouveaux renseignements, mais de quoi renouveler et entretenir son goût. Elle ne s'identifie à aucun personnage, mais plutôt à l'univers de la série. Elle finit par aimer même les personnages antipathiques, qui finissent par lui faire pitié, je la cite. Elle n'aime pas quand la narration dépasse certaines limites narratives de son point de vue invraisemblable par rapport à la série Urgence. Alexandra partage un appartement avec son frère. Tous deux font des études dans deux universités différentes. Ses loisirs sont surtout consacrés à des réunions avec des amis. À la télévision, elle aime les séries, qui forment l'essentiel des programmes qu'elle regarde. La question du genre n'est pas pour elle essentielle. Elle regarde des soaps, des policiers, des séries fantastiques. Elle a cependant une série qui la suit depuis une dizaine d'années, qui est Friends. Elle aime la regarder avec son frère, et également reparler avec ses amis. Après avoir fidèlement suivi les épisodes lors des diffusions initiales, elle possède aujourd'hui les DVD, et peut passer une soirée à regarder un DVD en totalité. Elle peut également, lors des diffusions actuelles, utiliser le poste de télévision comme un fond sonore et visuel qui accompagne agréablement son travail. Friends est aussi pour elle une sorte de monde utopique où elle voudrait vivre avec ses amis, je cite, une amitié indépassable. Elle dit ne pas s'identifier au personnage, même si elle se sent plus proche de Rachel. La diacrie de Monica ou la maternelle de Chandler la touche également. Mais c'est évidemment le groupe et son mode de vie constitue pour elle la source principale de reconnaissance et d'affection. De la vingtaine d'entretiens initiaux réalisés pour préparer une enquête plus vaste, ceux-ci sont assez caractéristiques. J'aimerais en inférer une hypothèse. La relation qu'entretiennent les téléspectateurs avec leurs séries préférées concerne ce que l'on pourrait appeler les formes de vie vécues, désirées, parfois regrettées de ces téléspectateurs. La lecture des enquêtes bien connues de Marilyn Brown, de Yann Heng ou de Dominique Pasquier pour le champ français pourrait suffire, il est vrai, à susciter cette hypothèse. Les passionnés de soap opéra interrogés par la première, les femmes néerlandaises passionnées souvent à leur plus grande surprise par Dallas, ou les jeunes amateurs de l'année des garçons, avouent combien la télévision, par le biais de ses programmes récurrents et fictionnels, est entrée dans leur vie. On peut bien sûr prétendre qu'il s'agit d'un intérêt, d'une application par défaut. Défaut de moyens financiers, intellectuels ou culturels. Cependant, les étudiants de master que j'ai interrogés ne manquent ni des instruments, ni de ressources. Pour la plupart, ils fréquentent également concerts, salles de cinéma, bibliothèques, musées. Leurs attaches avec leurs séries préférées paraissent assez différentes de celles qu'ils nouent avec films, livres ou même musique. Comme si les séries télévisées possédaient certaines qualités structurelles, autorisant ce sentiment de familiarité que je voudrais maintenant analyser. Non qu'aucun autre produit culturel ne soit capable de le procurer. On vient d'en avoir un exemple à l'instant, mais l'exemple aussi des lectrices de Harlequin compilé par Dennis Redway dans son ouvrage classique est évidemment éloquent. Cependant, il me semble que les séries sont plus que d'autres produits culturels capables de toucher les publics au point qu'elles pénètrent, entre guillemets, plus profondément dans la vie de ces derniers. Pour donner corps à mon hypothèse et organiser mon enquête, je commencerai en précisant les deux façons complémentaires dont ces rencontres se déroulent et préciserai un cadre général descriptif qui permettra d'en prendre la mesure. Il faut des concepts, comme on l'a rappelé. Puis j'en viendrai aux caractéristiques des produits eux-mêmes, dont certains me paraissent rendre possible la relation de réception que j'essaie de décrire. Les deux premiers exemples de fréquentation des pins plus hauts ont un point commun frappant. Autant que la série semble importante, l'acte de réception proprement dit, ses rituels, ses mises en scène, ses habitudes. Pour Agathe, Urgence fait littéralement partie de la vie qu'elle mène avec son ami. L'organisation minutieuse de son rendez-vous hebdomadaire avec la série en fait aussi un moment privilégié de sa vie amoureuse. Leur complicité est renouvelée par de fréquentes conversations autour des derniers événements de la série. Souvent aussi, ils rencontrent d'autres amateurs et en discutent avec eux, ou se remémorent d'anciens événements. Joséphine est clairement plus attachée au contexte du visionnement des Feux de l'amour qu'à la série elle-même. Quand elle regarde la série seule dans son studio de Lyon, elle n'en éprouve guère de plaisir, sauf lorsque passe un ancien épisode, lui-même associé à une forte émotion collective de sa vie familiale. Les coutumes familiales liées à la série font partie pour elle de l'image de sa mère, plus exactement de l'image de sa relation avec sa mère, de telle sorte que sa série est son seul vrai souvenir de télévision. Important. D'autres étudiants se plaisent à décrire l'importance de tout un ensemble de rituels bâtis autour de la série et inséparables d'un petit groupe d'intimes. Sylvain partage sa passion pour Lost avec ses collègues de promotion et surtout son ami. Lost est un de leurs sujets de conversation préférés et aussi un moyen assuré, dit-il, de passer une bonne soirée. À cet effet, Sylvain télécharge des épisodes que tous deux regardent ensuite par 4 ou 5 à la fois et prépare alors des thermos de café qu'ils vont boire toute la soirée. Pas de bière, pas d'alcool. Parfois l'un ou l'autre fond en larmes, bientôt suivi par l'autre. Jérôme est un amateur des Simpsons. Regarder la série de Matt Groening est pour lui un plaisir solitaire, mais il prétend que son goût, dès l'adolescence, ne se serait pas maintenu aussi longtemps s'il avait pu devenir membre des sociétés d'amateurs qui fleurissent aux États-Unis. Il arrive à bien connaître certains autres membres et il participe à certaines activités annuelles de cette association, grâce à Internet. Marianne distingue ses séries préférées en fonction des partages qu'elle opère. Scrubs est une série découverte avec son ami et lui donc associé. Les frères Scott constituent une passion commune avec sa collègue de travail. Les séries médicales, Urgence, Dr House, sont partagées avec sa mère, infirmière, quand elle retourne dans sa famille en Alsace. À chaque fois, elle décrit une ambiance et des formes différentes du visionnement. Il semble donc une condition de l'inscription d'une série dans la vie d'un individu est l'existence d'un contexte de réception partagé par quelques intimes, quelquefois une seule autre personne. Un ensemble de rituels organise, ou a-t-on envie de dire règle, ce cadre d'une façon stricte. Le plaisir procuré par la série dépend en partie de l'installation collective, de cet ordonnancement et du partage qui en découle. Dans tous les cas rencontrés, un investissement affectif fort préserve ce cadre que tout visionnement entretient et contribue donc à maintenir. Les amateurs peuvent alors montrer de l'indulgence pour la série elle-même, comme nous l'avons vu dans le cas de Joséphine. Agathe a été également tentée d'abandonner urgence quand certaines personnes disparaissent de la série, certains personnages, pardon. C'est d'ailleurs plus sûrement le cadre familial, amical ou amoureux qui sauvegarde la relation avec la série jusqu'à ce que de nouveaux personnages y soient installés. Cependant, il faut aussi, pour que la relation perdure, que l'amateur s'embarque dans le monde fictionnel de la série. Il doit y trouver un univers, certes imaginaire, mais qui le concerne d'une façon durable, quelles que soient les raisons de cet enrôlement. Alexandra est parmi les jeunes gens que j'ai rencontrés, l'individu qui semble réfléchir le plus nettement son attachement à sa série préférée. Elle vit le monde de Friends comme une utopie presque vivante, qu'elle essaye d'incarner avec ses amis et sa bonne humeur. C'est sans doute pour cela que pour elle, les éléments les plus douloureux de la série sont ceux qui impliquent la disparition de l'un des personnages. Elle explique alors qu'elle peut consulter Internet pour se rassurer à propos d'une question aussi importante. Elle est aussi très claire quant à son éventuelle identification avec l'un des personnages. Elle refuse l'idée et même le principe, puisque c'est la solidarité des personnages qu'elle apprécie. De même, elle ne s'intéresse pas aux différents spin-offs, aux séries dérivées de la série lancée pour exploiter la notoriété de l'un des comédiens. Séparé des siens, il ne compte plus pour elle. A l'inverse, Marianne ne peut pas parler facilement de son investissement sentimental pour le monde des frères Scott, autre série. La seconde saison l'a bouleversée parce qu'elle a eu l'impression de vivre des aventures analogues, d'avoir parfois des réactions proches de celles de l'un ou l'autre des personnages. Aussi, elle a l'impression de vivre dans un monde parallèle où elle existe virtuellement. Ses réactions réelles vis-à-vis de sa vraie vie ont été, dit-elle, non pas changées, mais corrigées. Cédric a une certaine affinité avec l'inspecteur Colombo, une série qui a percé son enfance. Il aime la relation que le flic entretient avec ses proies, l'attitude qu'il affiche, sa discrétion initiale et les relations qu'il noue avec autrui. Sylvain essaye sans cesse de parfaire sa connaissance de l'univers de Lost. Discussions avec les amis et parcours de différents sites internet sont ses moyens principaux. Il échafaude des hypothèses, souvent complexes, pour expliquer les événements passés ou faire des prévisions quant au devenir de l'un ou l'autre des personnages. Ils se sont parfois très proches de certains d'entre eux, puis se dirigent vers d'autres. Comme si la série lui offrait un immense jeu de rôle où il peut assumer successivement des identités variées. Je voudrais maintenant replacer les deux observations précédentes à l'intérieur d'une représentation générale de l'activité des publics. Je fais l'hypothèse que celle-ci se situe à l'intérieur d'un cadre, terme emprunté au cadre de l'expérience goffmanien, Goffman, sociologue américain, cadre que j'appelle cadre d'interprétation. Ce dernier résulte de la rencontre de deux contextes. Le premier accompagne l'objet, dont il y a interprétation, et résulte de critiques, de publicités, d'annonces diverses, bref, de médiatisation. Celle-ci, très différente d'un objet à l'autre, constitue ce que j'appelle son contexte de présentation. On l'a appelé tout à l'heure discours d'accompagnement. La sortie de la revanche des sites, le dernier Star Wars, a évidemment été accompagnée d'un tapage médiatique puissant, tandis que celle de la graine et le mulet a été plus discrète et provient de sources très différentes. Parfois, un contexte de présentation résulte d'interprétations précédentes de l'objet. Un cadre d'interprétation se mue en présentation pour un public postérieur. ainsi de l'interprétation de Sartre pour l'œuvre de Jean Genet. Nous disposons d'études souvent remarquables concernant le poids sur l'interprétation de certains contextes de présentation. J'ai parlé tout à l'heure du travail de Janet Steiger sur la sortie du silence des agneaux. La polémique entre plusieurs communautés homosexuelles. Le travail également de Martin Berker autour de l'interdiction, enfin de la volonté d'interdiction éventuelle du film Crash en 2001. Le contexte muséal a aussi été étudié en détail. Par exemple, à l'intérieur de l'étude, Jean-Claude Passeron et Emmanuel Pedler, le temps donné au tableau, ou par Christine Galaverna, à propos des objets africains. J'appelle contexte de réception la façon dont se présente un public quand il entre en contact avec l'objet. On peut aller voir Bienvenue chez les Ch'tis sous le feu de son succès médiatique et accompagner les rires de la salle, ou l'examiner en expert de la mise en scène cinématographique et en être éventuellement déçu. Un cadre d'interprétation est donc situé, de mon point de vue, au confluent d'un contexte de présentation de l'œuvre et d'un contexte de réception, au sens que je l'ai défini à l'instant. Il résulte des interactions entre un lieu qui ressort de l'espace public et de la présentation de soi adoptée par les membres d'un public. Celle-ci peut varier, et l'identité assumée pendant le visionnement ou la lecture peut être diverse, se modifier ou même être un mixte parfois étrange, d'identité multiple. On peut voir Bienvenue chez les Ch'tis des deux façons en même temps. Alors, quelles sont les caractéristiques du cadre d'interprétation des séries télévisées ? Les séries télévisées, réputées produits de masse, terme que je n'aime pas beaucoup, avec tout le lourd mépris que ce vocable implique, ne bénéficient guère de médiatisation tonitruante. On pourrait même parler à leur égard d'un chuchotement médiatique. Autrefois, elles n'apparaissaient guère que comme une ligne à l'intérieur d'un programme. Aujourd'hui, elles ont quand même leur magazine, suscitent même certaines réactions que leur nouveauté ou leur qualité est notable. En France. Nous commençons ainsi à rejoindre les pays anglo-saxons où depuis de nombreuses années, beaucoup de séries ont constitué des événements et même des enjeux culturels importants. Cependant, il reste que les contextes de présentation des séries se résument pour la plupart d'entre nous à quelques avis de proches, ou même à une rencontre aléatoire avec un programme de télévision. Parmi les étudiants que j'ai interrogés, seule Isabelle cite une source médiatique qui l'a incité à regarder une série. Il s'agit en l'occurrence d'un quotidien gratuit. Mais presque toujours, insiste-t-elle, il s'agit d'un ami qui lui a conseillé de regarder une série. L'avis, l'auteur général, est paraphrasé de la façon suivante. « Toi qui aimes X, telle série, tu devrais regarder Y, telle autre série. » Un contexte de présentation également très fréquent se résume à la télévision allumée au domicile et regardée par un des deux parents. Une brève indication sur le sujet ou le thème peut s'en suivre, à laquelle s'ajoute un énoncé comme « c'est pas mal ». Mais n'est même pas nécessaire. Il en résulte que, dans le cas des séries, comme dans celui de toute une production culturelle industrielle, le contexte de présentation est très fragile, ou même manque complètement. Dans ce cas, on peut supposer que le contexte de réception va remplacer ou meubler la présentation défaillante. Qu'est-ce qui se trouve dans le cadre de présentation ? Dans l'espace public permettant d'avoir accès aux objets, qu'est-ce qui se trouve dans le cadre de présentation qui peut faire défaut aux membres du public? Tout d'abord, un substitut à l'espace public, même s'il est privé. Un lieu où entretenir une socialité, c'est-à-dire où regarder cette série. Ce lieu doit être peuplé, même si celle-ci peut être réduite. Le compagnon d'Agathe ou virtuel, les internautes amateurs des Simpsons, cher à Giraud. Il peut trouver à s'abriter dans une cour de récréation ou dans l'intimité d'un appartement. Il ne peut exister que de façon provisoire. La vie n'est pas consacrée aux séries télévisées. On comprend la profusion de rites inventés par les membres des par les membres du public, afin de lui donner existence quand le temps du visionnement, celui des discussions, est arrivé. Un contexte de présentation renseigne sur l'objet. Même dans le cas où il se réduit à une origine générique, film policier américain, groupe rock français, il engage des références, un paysage culturel, qui permet aux membres du public de s'orienter. L'absence de telles références publiques oblige ces publics à préciser eux-mêmes la nature de l'objet, son genre, éventuellement ses origines. Parfois, les propres connaissances des interprètes y suffisent. Parfois, c'est la discussion avec les autres membres du contexte de réception qui y supplée. Dans tous les cas, la labilité ou même la précarité de l'objet série incite les membres de la communauté de réception à redéfinir sans cesse leur objet sériel préféré. Un contexte de présentation fournit enfin un cadre idéal, un cadre d'idées, guidant l'interprétation de l'objet. Il propose un point de vue préférentiel qui oriente la quête de traits discriminants à l'intérieur de l'objet, et donc la compréhension de ce dernier. Par exemple, on a parlé de Cézanne tout à l'heure, Cézanne est un grand peintre. Regardez ses tableaux, c'est suffisant, ça implique des arêtes dans l'étoile de Cézanne. Par exemple, admettre qu'un film est un film policier américain engage l'interprète à définir prioritairement le personnage du flic ou de l'enquêteur, le type de crime et du criminel. Dans le cas de série, l'interprète doit faire son chemin avec l'aide des membres du contexte de réception et participer à l'élaboration d'une vision compréhensive claire et l'objet. La compréhension ne préexiste pas. La prégnance des discussions autour des séries s'explique donc en partie par l'absence d'une norme interprétative fournie par une présentation initiale. Pour enquêter sur des publics de quelque chose, il faut mieux connaître un petit peu ce quelque chose en question. Donc je vais tenter de répondre un tout petit peu à la question « qu'est-ce qu'une série télévisée ?» Il semble que l'objet « série télévision » est particulièrement bien armé pour remédier à sa propre absence de publicisation ou de présentation. Je ne peux pas faire ici l'histoire pourtant passionnante des séries télévisées qui constituent une période particulièrement riche de la production de la narrativité populaire, en particulier anglo-saxonne. Disons quand même, avant de préciser les caractéristiques de cet objet narratif remarquable, qu'elle a été le fait d'hommes et de femmes extrêmement talentueux et inventifs et d'une industrie de production souvent beaucoup plus audacieuse qu'on ne le croit. Il existe malheureusement assez peu d'ouvrages sur le sujet, qui sont tous américains. Il y en a deux dans les biographies. Une série repose essentiellement sur une formule narrative. Celle-ci est l'armature qui fonde l'univers sériel, sa structure récurrente, qui permet aux téléspectateurs de le reconnaître et aussi éventuellement de s'y reconnaître. On a voulu opposer, comme Stéphane Benassi, les formules purement sérielles, dont chaque épisode possède son autonomie narrative, et les formules feuilletonesques, dont chaque épisode dépend des évolutions narratives du précédent. Aujourd'hui, les séries essayent d'être à la fois répétitives et évolutives, et doivent leur succès à des formules mixtes. La qualité itérative d'une série dépend de l'amalgame réussi d'éléments hétérogènes. Sa structure, la formule narrative, son paysage fictionnel, son décor, ses formes dialoguées récurrentes, l'organisation des décors, un style de mise en scène, le choix d'une thématique, l'emprise des comédiens sur leurs personnages, la permanence d'un point de vue, chaque composant ayant plus ou moins d'importance selon la série. La formule initiale doit permettre le développement de diverses variations autour du schéma qu'elle propose. C'est là ce qui lui est principalement demandé. On comprend le soin mis par les différents créateurs à élaborer l'univers fictionnel, son histoire, celle des différents personnages. C'est pour ça que le créateur d'une série est toujours scénariste et pas réalisateur, comme dans le cas des films. Car la puissance narrative propre d'une série, c'est sa capacité à inscrire dans une durée longue un récit évolutif. Il existe bien sûr certains précédents, dont le roman feuilleton d'antan, les années 1840-1850, début du XXe siècle. Cependant, on trouve rarement des exemples de transformations narratives aussi radicales que celles pareilles. Par exemple, le personnage de Sipowicz, héros de NYPD Blue, d'abord présenté comme raciste, homophobe, tricheur, profondément réactionnaire, dont les prises de conscience successives le conduiront, au cours des 13 saisons de la série, à aider sans hésitation des collègues ou même des suspects du flic noir, à accepter que son mariage soit célébré par un prêtre gay, etc. Tout en conservant les impulsions agressives envers ses premières cibles, homosexuelles, noires, etc. Les longues discussions des membres des publics autour du devenir des personnages semblent donc pleinement motivées par le type de temporalité propre à ces objets. La nécessité d'un contexte de réception organisé, de ce point de vue, se fait d'autant plus sentir. Leur durée permet également aux séries d'approfondir le monde qu'elles présentent, d'une façon si précise que parfois on a l'impression que jamais on ne connaîtra aussi bien notre monde réel. C'était déjà l'idée de Josephine. Ce que l'on appelle très improprement impression de réalité, qui n'est rien d'autre, me semble-t-il, que le constat d'un enracinement historique crédible de la fiction, peut donc être ressenti de façon puissante avec les séries télévisées. Quand il en interroge de jeunes londoniens habitant les quartiers est de la ville à propos de la série EastEnders, justement située dans cette zone plutôt déshéritée de Londres, David Buckingham obtient des réponses à la fois mesurées et enthousiastes. Si la description proposée par la série est jugée crédible, c'est essentiellement les problèmes qui se posent aux personnages que ces téléspectateurs reconnaissent comme leurs, et non les agissements de ceux-ci. Là, je vais trouver un point commun avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Ainsi, le programme était aussi une opportunité, je cite David Buckingham, le programme était aussi une opportunité d'engager un débat moral, dans lequel l'enfant âgé était extrêmement sophistiqué. Jean-Marie Schaeffer, qui est philosophe, a insisté sur le fait que la participation au jeu fictionnel implique ce qu'il appelle une immersion fictionnelle. Les lecteurs ou les téléspectateurs de fiction, s'ils veulent le devenir effectivement, doivent accepter de vivre entre deux mondes, dit Jean-Marie Schaeffer. Ces deux mondes sont leur environnement réel et l'univers fictionnel. Le second repose en partie sur l'activité imaginative de ses lecteurs, téléspectateurs, et est l'objet d'investissements affectifs puissants. La puissance fictionnelle de la série, la multiplicité de ses épisodes, la durée longue de son actualité, la possibilité d'approfondir l'univers fictionnel et aussi de le transformer en partie, semblent autoriser l'état d'immersion sérielle à se maintenir, à flotter au-dessus ou plutôt à l'intérieur de la réalité. Il a aussi la propriété de pouvoir être réactualisé grâce à la projection de nouveaux épisodes. Ainsi, le monde fictionnel sériel semble avoir plus de consistance que d'autres, liés à des films ou à des romans, et lui permet de fonctionner non comme une exemplification de la réalité, à l'exemple des récits fictionnels usuels selon le terme de Schaeffer, mais comme un véritable monde parallèle à certains de nos mondes réels. Voir l'interview d'Alexandra tout à l'heure et celle de Joséphine aussi. Si, comme l'assure Isaac Joseph, autre sociologue, goffmanien, raconter est par excellence un acte démocratique, les séries, en produisant des univers fictionnels complexes et sensibles, offre aux téléspectateurs, pas seulement aux plus jeunes, nos interviews montrent déjà une grande complicité avec les parents à propos de certaines séries, comme l'a déjà montré Dominique Pasquier à propos de certaines jeunes filles, une façon souple de comprendre notre vie ensemble. Je reprends la phrase. Nos interviews montrent, si comme l'assure Isaac Joseph, raconter est par excellence un acte démocratique, les séries, en produisant des univers fictionnels complexes et sensibles, offre aux téléspectateurs une façon souple de comprendre notre vie ensemble. Nous devrions, me semble-t-il, être plus attentifs aux goûts et plus confiants dans leurs choix et examiner sérieusement cette relation privilégiée que les séries sont capables de susciter. L'enquête que je voudrais maintenant entreprendre de manière plus systématique devra donc saisir comment ces récits sont reçus, appropriés, transformés en narrations à l'usage de collectifs parfois réduits, un couple, parfois destinés à se propager d'une façon inattendue, grâce aux cours de récréation ou à d'autres espaces publics, je dirais, réduits et non pas médiatisés. Et je vais m'arrêter là.